On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, enfin deuxième cours et demi, puisque ça fait deux cours, on avait fait un demi-cours aussi sur le chapitre 19. Donc pour rappel, le thème, donc c'est page 247 dans les livres ici, il y en a en plein milieu du chapitre 19, l'étude du 3 Shvat, donc ça vient de passer. Pour rappel, le thème qu'on a commencé dans ce chapitre, on a expliqué comment il faut comprendre qu'est-ce que c'est la Neshama. On a expliqué dans le Pirek, le chapitre dernier, le chapitre 18, on a expliqué que chaque juif veut donner sa vie pour Dieu. Et là, dans ce chapitre, on a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est la Neshama. On a donné un exemple, certainement vous vous rappelez, l'exemple de la bougie. Puisque c'est écrit Ner Hashem, Nishmat Adam, la bougie de Dieu est comparée à la Neshama. Qu'est-ce qu'il y a dans une bougie? Dans une bougie, on a expliqué, il y a une flamme, il y a une mèche, et il y a un combustible. Trois choses. Alors, dans le machal, ça c'est l'exemple. Maintenant, dans l'image, c'est quoi la flamme? La flamme, elle veut toujours monter. Où elle veut monter? À sa source. Même si elle sait qu'elle ne servira plus à rien, elle veut quand même remonter à sa source. Parce que c'est ce qu'elle veut. D'accord? Donc, retenez bien, c'est presque une folie. Mais dans le bon sens. C'est une folie. C'est comme une personne, il a envie d'aller voir un tzaddik. Il dit, j'ai envie d'habiter à côté du tzaddik. Je dis, mais à quoi tu vas servir là-bas? Tu ne serviras à rien, on n'a pas besoin de toi là-bas. Il dit, mais c'est pas grave, quand même, je vais être là-bas, je me sens bien là-bas. Et ben, c'est la même chose. La Neshama, elle veut retourner chez Dieu tout le temps. Il faut constamment la retenir. Et comme on a expliqué la semaine dernière, chaque matin, avant de descendre sur Terre, parce que chaque nuit, la Neshama part chez Akadosh Baruch, chaque matin avant de descendre sur Terre, la Neshama se plaint à Akadosh Baruch, elle dit, mais pourquoi tu veux que je redescende? Qu'est-ce que je veux faire encore dans ce corps? T'as vu de quoi il a l'air? T'as vu ce qu'il va me faire? Ah, c'est l'histoire, pourquoi je redescends? Et à chaque fois, Dieu dit à la Neshama, il lui dit, fais confiance au corps encore une fois, fais confiance encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, il va assurer. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, Modé Ani Lefanecha, Melechai Vekayam, Shehe Chezarta Bi Nishmati. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu la Neshama, puisque c'était pas gagné. C'était pas gagné, il y avait un combat qui se passait. Et on a la chance que Dieu nous a rendu la Neshama. En tout cas, la Neshama, elle, c'est comme la bougie. C'est comme la flamme. Elle veut partir. Elle veut partir. Elle veut pas rester ici. Quitte même à s'évaporer à cause de ça, à partir. Et c'est pas grave. On dit, mais tu ne serviras plus à rien. Elle veut quand même partir. Elle veut pas rester ici. Qu'est-ce qui la retient? C'est le corps. Le corps, c'est comme la mèche. D'accord? Après, on va expliquer d'un juste le combustible. Le combustible, c'est la Torah et les mitzvot. Maintenant, ce que je voudrais m'arrêter aujourd'hui, c'est qu'on a vu, clairement, on l'a développé, que la Neshama, c'est une folie ce qu'elle veut faire. Elle veut quitter ce corps, elle veut tout le temps quitter ce corps, bien que c'est une folie, parce qu'elle ne sert à rien en haut. Ici, au moins, elle a une fonction. Donc, c'est une folie, mais c'est une folie, on va dire, positive. Alors, on va faire une grande partie du cours d'aujourd'hui à l'oral, puisque cette semaine, Bezrat Hashem, donc vendredi, ce sera Yud Shvat. Yud Shvat, c'est la date où, en 1950, le rabbi précédent a quitté ce monde. Alors, il était déjà malade depuis quelques années, mais Baruch Hashem, il avait encore toute son intelligence, et chaque semaine, il avait du mal à parler. Il avait beaucoup de mal à parler, parce que bon, c'était difficile, même quand les gens venaient lui demander des conseils, il fallait toujours un interprète à côté de lui qui explique ce qu'il voulait dire, parce qu'il avait beaucoup de mal à parler, mais il arrivait à écrire. Et donc, chaque semaine, il éditait un commentaire pour le Shabbat, que les chassidim étudiaient le Shabbat. Et oui, c'est bon. Et ce qui s'est passé, c'est que le dernier Shabbat, donc c'est Yud Shvat, le 10 Shvat en 1950, 5710, oui. C'était un Shabbat. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un Shabbat Parashat Bo aussi. Et le rabbi précédent avait préparé pendant la semaine un Mahamar qu'il a écrit, donc un texte rassidique très long, 20 chapitres qu'il a écrit. Et dans ce chapitre-là, il a donné un commentaire pour que les chassidim puissent étudier pendant Shabbat. Maintenant, ce même Shabbat, le matin de ce Shabbat, à 7h50 du matin, il a fait un malaise, il est niftar. Alors, un an plus tard, c'est notre rabbi qui est devenu rabbi. Et chaque année, il disait comme ça. Il disait, puisque c'est le dernier commentaire qu'il a écrit, ça veut dire que ce commentaire, c'est comme une sorte de testament. C'est comme lorsqu'une personne part de ce monde. On en a parlé un petit peu Shabbat. Là, je vais développer un autre point. Lorsqu'une personne part de ce monde, toujours on essaye de poser la question, mais quelle est la dernière chose qu'il a dit? Que ça te change, ça fait 80 ans qu'il est là. Pourquoi tu veux savoir tout d'un coup quelle est la dernière chose qu'il a dit? Parce que on estime que dans la dernière chose qu'il a dit, il y a une sorte de testament. La Neshama, elle sent qu'elle va partir, et des fois, sans se rendre compte, on dit des messages. Et donc, chaque année, le rabbi disait que dans ce dernier texte chassidique que le rabbi précédent a fait, en 1950, donc un texte qui devait être étudié ce fameux Shabbat dans lequel il est parti de ce monde, et ben ce texte-là, c'est comme un testament. Alors dans ce texte, qui était particulièrement long, il y avait 20 chapitres. Et vous allez comprendre où je vais en arriver. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, comme il y avait 20 chapitres, chaque année, à partir de 5711, donc 1951, à partir du moment où le rabbi est devenu officiellement rabbi, je dis officiellement parce qu'un rabbi naît rabbi. Mais bon, à partir du moment où il a pris ses fonctions, chaque année, le rabbi commentait un chapitre de ce mamar. Donc en 1951, il a commenté le chapitre numéro 1. 52, il a commenté le chapitre numéro 3. Donc il a fait un premier cycle de 20 ans. Et après, il a recommencé un deuxième cycle. D'accord ? Et donc, là, si on fait le compte, chaque année, il faisait un commentaire. Bon, malheureusement, maintenant, on n'a pas la chance d'entendre les commentaires du rabbi. Mais si on fait le compte, on va faire le compte ensemble. 1951, vous comptez plus 20, ça fait combien ? Ça fait donc, en 71, on est reparti sur une nouvelle série. Vous comptez encore 20 ans.
92.
Ça fait qu'en 91, on a recommencé une nouvelle série. Vous comptez encore 20 ans, vous arrivez à combien ?
2001.
D'accord ? 2011, pardon, Razak. Donc 2011. Donc ça veut dire qu'en 2011, on commence une troisième série de 20 chapitres. D'accord ? Parce qu'on a dit c'est 20 chapitres à chaque fois. Donc là maintenant, on est en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Donc c'est-à-dire que là maintenant, le chapitre qui correspond à notre actualité, c'est le cinquième chapitre de ce commentaire. De quoi il parle ce cinquième chapitre ? Alors justement, bon, on n'a pas eu la chance d'entendre le rabbi qui nous parle, parce que bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais il y a un texte chassidique que le rabbi avait fait justement à la cinquième année. Donc c'est ce qui nous intéresse, ça veut dire la cinquième année du deuxième cycle. Et là, le rabbi avait donné un commentaire très intéressant. Il avait dit, de quoi il parle le cinquième chapitre ? Cinquième chapitre de ce Mahamar, il parle du fait que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a demandé de construire le Mishkan, donc c'est l'actualité ça, parce que dans les parachas qui vont suivre, là, parachas Yitro, Mishpatim, on va parler de la construction du Mishkan. Les Bnei Israël ont fauté, Dieu va demander de construire le Mishkan. Curieusement, lorsque Dieu va demander de construire le Mishkan, il va demander d'utiliser le bois de Shittim. Le bois de Shittim. C'est quoi Shittim ? Alors, Shittim, d'accord, Shittim en hébreu, normalement, ça veut dire du bois de cèdre. Mais normalement, comment on a dit Shabbat ? Comment on dit les cèdres ? Le cèdre, c'est comment on dit le cèdre ?
Choté.
Non, le cèdre, les cèdres du Liban, Erez. Erez, c'est un cèdre. Mm-hmm. D'accord ? Arzeh Levanon. Arzeh Levanon, va yar kidem, kemo, egel, bonsoir. Au rabat. Donc, comment on dit en hébreu un cèdre ? On dit Erez. Et là, curieusement, dans la paracha qui parle de la construction du Mishkan, on voit que la Torah, comment elle appelle les cèdres ? Elle appelle Shittim. Elle appelle Shittim. Et la Gemara, elle s'arrête dessus. Elle dit, pourquoi on l'appelle Shittim? Parce que dans le mot Shittim, avec un tête, il y a le mot choté. C'est quoi choté en hébreu?
Fou.
C'est un fou. Quel rapport entre la folie et le Mishkan? Pourtant, normalement, la Torah nous a toujours eu l'air d'être quelque chose de structuré. Et c'est une question très importante qu'on pose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la tête de la majorité des gens, les gens hein, qui sont fous, c'est les gens qui sont en boîte de nuit, qui font des bêtises toute la nuit. Mais quelqu'un qui suit la Torah est quelqu'un de structuré. C'est pas quelqu'un qui fait des folies. Ni dans le bien, ni dans le mal. Il ne fait pas des folies. C'est-à-dire que normalement, on a toujours cette image que quelqu'un qui est dans la Torah, il ne fait pas de folie. Il va dormir à 10h du soir, il se lève à 6h du matin. Ouais, c'est quelqu'un de, d'accord ?
Ça s'appelle faire des folies.
Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toujours pensé, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qu'un homme qui suit la Torah doit être un homme qui est carré, qui est structuré, et un homme qui est fou, eh ben, c'est un homme qui ne suit pas la Torah. Or, là, curieusement, qu'est-ce qui se passe ? La Torah nous demande d'utiliser le bois de Shittim pour construire le Mishkan. Or, Shittim, la seule fois dans la Torah où on voit le mot Shittim pour désigner le cèdre, c'est dans le Mishkan. Shittim en hébreu, ça veut dire aussi le fou. Alors la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que la Torah, quand elle parle de la construction du Mishkan, elle nous parle de la folie. Et là, il répond comme ça. Et là, vous allez voir le rapport avec le cours d'aujourd'hui. Le rapport avec le cours d'aujourd'hui, donc le thème qu'on a dit dans le SMS, c'est comment combattre la folie de la Vera. La Gemara dit comme ça. La Gemara, dans le traité Sota, elle dit qu'en vérité, la clé de la réponse se trouve dans une autre paracha. Dans la paracha Nassau, on parle d'une femme qui a dévié du droit chemin. En tout cas, on pense qu'elle a dévié du droit chemin, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle s'isole avec un homme qui n'est pas son mari. Alors, certes, il n'y a pas de preuve qu'il s'est passé quelque chose, mais ça sent pas bon, c'est pas normal qu'une femme s'isole avec un autre homme, surtout que son mari l'a prévenu, il lui a dit ne t'isole pas avec cet homme. Et il vient, il l'attrape une fois, deux fois, il l'attrape enfermé dans une pièce avec un homme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors c'est une femme qui, la Torah a dit, c'est une femme qui est sota. D'accord ? Sota. Sota, ça veut dire quoi sota ? Sota, ça veut dire qu'elle a dévié. Sauf que, dans la Torah, pour dire sota, comment on écrit sota normalement ? On écrit samer, vav, tête, he. Mais la Torah, dans la paracha Nassau, pour dire la sota, elle dit ish, ish, un homme, qui tiste ishto, elle écrit avec un sin. Elle écrit le mot dévié, mais avec un signe. Or, rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Choté, ça veut dire un fou. Et la Gemara dit comme ça. Elle dit, en vérité, c'est pas par hasard si tisté, d'accord, c'est-à-dire sauter, quelqu'un qui dévie, et choté, ils sont quelque part dans le même mot, pour t'apprendre la chose suivante, pour te dire que en Adam over avera, comme on va développer tout de suite, et la imken ichnasbo roarchtout, qu'un homme ne peut faire une avera seulement s'il a eu un esprit de folie. Que cette femme-là, si elle a dévié du droit chemin, c'est pas parce que dans sa tête elle a décidé de dévier du droit chemin et parce que idéologiquement elle veut dévier du droit chemin. Non, c'est pas ça. C'est dans le même verset, on te dit dévier et on te dit fou. Parce que pour dévier, il faut être fou. La preuve, c'est quoi? C'est que l'instant après que tu as fauté, qu'est-ce que tu dis? Tu regrettes. Pourquoi tu regrettes? Mais kiffe ta avéra au moins. Maintenant, de toutes les façons, t'as fauté maintenant. Au moins, profite. Non, il n'arrive pas. Un juif, il n'arrive pas à profiter d'une avéra.
Vous savez que tu parles d'un juif qui sait ce que c'est.
Mais vous savez que c'est spécifique aux juifs, ça.
Non, mais ça, tu parles de quelqu'un qui sait.
Quelqu'un qui sait ce que c'est le mal, bien sûr.
Voilà, parce que maintenant, si tu parles.
T'as fait la avéra. Kiffe maintenant, au moins. De toutes les façons, tu vas payer. Tu vas prendre des claques, de toutes les façons, maintenant. Au moins, kiffe. Non, il peut pas.
T'as le droit à un tour de manège.
Il peut pas. Et c'est fini. Il a fait la avéra, tout de suite, les remords, ça le travaille, il regrette. Pourquoi il est de remords tout de suite? Parce qu'en vérité, faire une avéra, un juif peut faire une avéra seulement s'il a un esprit de folie. Il faut être fou pour faire une avéra. Seulement, c'est quoi la force du Yetzarara? C'est qu'il arrive pendant quelques instants à t'endormir. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le chapitre dernier. C'est comment il t'endort. Il te fait croire, il dit, bon, c'est pas grave, t'es encore juif. Pas grave, même si t'as fauté, t'es encore juif. Et ça, c'est le problème du Yetzarara. Bien sûr qu'il a raison. Oui, mais voilà, ça veut dire, il te dit, c'est pas grave, il te dit, ça va, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde.
L'argument. Mais j'ai pas besoin de lui pour le dire.
Évidemment. Mais ça veut dire, il te dit, c'est pas si grave que ça, t'inquiète pas, t'es encore juif. Donc il te rassure. Il te rassure et pas qu'il te fait fauter. Mais après, une fois que t'as fauté, tu réalises c'est pas bien ce que t'as fait. Donc tu regrettes, mais c'est trop tard, t'as déjà fauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui amène la avéra? C'est la folie. Plus la avéra est grave, plus il faut une folie qui est grave. D'accord. Et d'ailleurs, on dit bien, quand une personne fait une bêtise, il dit désolé, j'ai pas réfléchi.
Mais alors, j'ai pas réfléchi. De temps en temps, on peut pas kiffer, on peut pas fauter.
À kiffer. Ben oui. Pour kiffer, il y a besoin de fauter. Rassurez-moi.
Ben oui, mais enfin, quand on faute, on kiffe.
On peut kiffer sans fauter. Alors.
C'est trop rigide, finalement.
Non, ce que Dieu a interdit, il a interdit. Ce que Dieu a permis, il a permis.
Il a interdit. Il a beaucoup interdit.
Ah oui, j'ai pas interdit. Dieu n'a pas interdit tout. Il y a des choses qu'il a permis. Il a permis d'ailleurs la majorité des choses. Mais il y a des choses qu'il a interdit, on n'a pas le droit de les faire. Et le goût de l'interdit après. Comme dit le roi Salomon, il dit les eaux volées sont douces. Depuis quand une eau est douce? Une eau, ça n'a pas de goût. Enfin, normalement. D'accord? Ça veut dire que quand tu voles quelque chose, ça prend du goût tout de suite. Ça a une saveur particulière.
Normal, tu l'as pas payé.
Non. Pas, quand on vole quelque chose, ça prend une saveur. Ouais. Une fois, on m'avait donné le proverbe français. Il y a un proverbe en français pour dire ça. Pour dire que ce qui est volé a une saveur particulière. Ça veut dire que tu prends le même produit, tu l'achètes, le même produit, tu le voles. Celui que tu as volé, il a une saveur particulière. Parce que tu l'as volé. Tu le préserves. Alors, en tout cas, où je vais arriver. En fait, il dit comme ça. Il dit, pourquoi une personne faute? Une personne faute parce qu'il a eu un esprit de folie. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il regrette juste après. Donc, avec ça, je reviens. Voilà pourquoi.
Mais même pendant.
La femme qui se dévie, comment on l'appelle? On dit sota, mais sota, ça veut dire dévier, mais ça veut dire aussi folle. Pas parce que le mari a envie de la traiter de folle. Parce qu'il faut être fou pour faire une avéra. Pour dévier, pour faire une avéra. Il faut être fou. Et en vérité, là, on parle d'une femme, et ça va là pour chacun de nous. Que la Gemara te dit, un homme peut faire une avéra seulement s'il a un vent de folie qui l'emporte. Parce que s'il n'y a pas de folie, c'est impossible de faire une avéra. Très bien. Juste ici, tout est clair. Quel rapport avec le Mishkan? Dans ce cas-là, ça amplifie la question. Tu viens de me dire que la folie, c'est la avéra. Alors dans ce cas-là, pourquoi le Mishkan, qui est symbole de la Kedusha et le summum de la Kedusha, en plus la Teshuva, le Mishkan c'est le symbole de la Teshuva, après la faute du Vaudor, on cherchait un symbole, on nous donne qu'est-ce qu'on nous donne le Mishkan? Avec quoi on fait le Mishkan? Avec du bois de fou. Mais c'est quoi ces histoires? Depuis quand? Pourquoi la folie? La folie c'est pour la Averot, c'est pas pour les Mitzvot. Alors, dans le cinquième chapitre de ce fameux commentaire, le rabbi précédent il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, la seule manière de combattre la folie de la avéra, c'est par la folie de la mitzvah. Ça, c'est la clé de la réponse. Et il développe longuement, on va développer. On va pas faire beaucoup sur texte.
C'est quoi la folie de la mitzvah, c'est d'accord?
Ah, très bien, bonne question. C'est quoi la folie de la mitzvah? La folie de la mitzvah, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, normalement, on est tous carrés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu dis, d'accord? Il y a des mitzvot, d'accord? Tu dis, jusqu'à là, je peux y aller. Je peux donner tant de tzedaka, je peux étudier tant de Torah, je peux respecter tant le Shabbat, je me limite. Je suis cadré. Mais c'est normal d'être cadré, parce que chacun de nous, par rapport à sa situation, par rapport à sa famille, par rapport, etc., par rapport à son éducation, il dit, voilà, moi je me situe ici. Et bon, il a une estimation qui est relativement bonne, il se situe ici. Dans la tradition, il est à ce niveau-là. Il fait pas de folie, il est droit. Alors on te dit comme ça, on te dit, si dans la vie de tous les jours, tu étais aussi cadré comme ça, que tu dis, moi, je me suis une pile ici, et je dévie pas un petit peu ici, un petit peu là-bas. On te dit, ok, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans les bêtises, tu es cadré. Dans la Torah, tu es aussi cadré. Tu dépasses pas. Mais si dans les bêtises, tu dépasses, tu fais des folies, mais que dans les mitzvot, tu dépasses pas, on te dit, mais bien sûr, tu peux pas faire le poids. Quand le Yetzer Hara, il vient te voir, il te dit, viens, je vais te proposer un truc, une folie. Et qu'est-ce qu'il lui répond? L'autre, il dit, non, viens, on va dormir. Il dit, tu fais pas le poids. Tu n'arrives même pas à lui parler, etc. Pour contrer une folie, il faut lui donner une autre folie. Si tu me proposes une folie, moi je vais te proposer une autre folie. Viens maintenant, va rester. Je suis pas le style maintenant d'aller étudier la Torah, c'est pas mon truc. Voilà, moi j'ai eu un cours de Torah par ici, par semaine, ça me suffit, j'ai largement suffisant. Tu me proposes une avéra, eh ben tiens, je vais ouvrir internet, je vais aller voir un cours de Torah. Pac! Je lui mets comme ça, plein la figure. Et ça, c'est une folie. Ça, c'est une folie de la Kdusha. Et ça, il faut savoir que la génération dans laquelle le rabbi précédent a parlé, pourquoi je dis que c'est un testament? Parce que le rabbi précédent, quand il est parti, c'était en 1950. D'accord? Et c'était en fait à cette époque-là qu'on commençait à avoir les prémices de ce qu'on appelle en France mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la révolte, d'accord? La révolte des jeunes. Bien sûr, c'est un juif. Il y a eu la révolte des jeunes. Mais c'est quoi la révolte des jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une folie. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Normalement, il y a une structure dans le monde. C'est que les jeunes doivent être soumis aux anciens. C'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Comme c'est écrit dans la paracha Azinu, She'al avicha ve'yagetra, demande à ton père qu'il te dise, Zekenera, ton grand-père, v'yom roulard, ils te diront. Tes grands-parents te diront. C'est-à-dire que la structure normale du monde dit que un jeune doit consulter ses parents, et ses parents eux-mêmes vont consulter ses grands-parents, et tout le monde consulte. Plus on est ancien, plus on doit écouter. Est venue une génération, à partir des années, donc après la guerre, quoi, d'accord? Après la guerre, c'est en vérité, c'est après la guerre que les prémices ont commencé. Ça a explosé en 68, mais les prémices ont commencé après la guerre. Et donc, dans ces années-là, a commencé donc une sorte de révolte, et les jeunes ont commencé à dire, on dit non, d'accord? Il est interdit d'interdire, on est d'accord. Alors, il y avait un grand problème chez les rabbins. Les rabbins étaient un peu partagés, comment gérer ce genre de choses? Comment gérer? Parce que le problème, c'est que cette révolte arrivait aussi dans les yeshivot, elle arrivait partout. Ah oui, parce que tout le monde, c'était, vous savez, c'est quand il y a un courant, le courant, il emporte tout le monde avec lui. Et donc, il y avait ce problème-là qui venait dans les yeshivot. Dans les années 60, comme ça commençait. En vérité, ça commençait même à partir de 1950, 51, ça commençait progressivement. Surtout, vous savez, les États-Unis, là-bas, les Américains, ils sont un peu précoces. Et les rabbanim étaient partagés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a des jeunes qui sont là, qui sont révoltés, etc. Il y a la révolte, il y a l'émancipation des femmes, d'accord? Enfin bon, c'était des révoltes. On ne savait pas quoi faire. Alors, il y avait des rabbanim qui disaient, il faut écraser la révolte. Il faut les casser, il faut les tuer, il faut les mater. Il y avait des rabbins qui disaient comme ça. Et là, le rabbi, il répétait souvent ce fameux cinquième chapitre. Et il disait, regardez ce qu'il a dit ici, le rabbi précédent, dans son testament. C'est pas un testament, mais dans le commentaire qu'on considère comme un testament. Il n'a pas dit, quand t'as une folie de la vera, il faut la casser. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il faut faire une autre folie. Ça veut dire, si tu vas voir ces jeunes et tu vas les casser, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui ont essayé de les casser, ils ont obtenu l'effet contraire. Et ça, c'est une réalité, c'était prouvé. Tu cherches à écraser quelqu'un qui veut s'exprimer, d'accord? Liberté d'expression, appelez ça comme vous voulez, il va s'exprimer encore plus. Et c'est la réalité.
Ça s'appelle la rasra.
Seulement, alors c'est quoi la rasra?
Non mais, parce que justement, un des remèdes contre la rasra, c'est la simra.
La simra, oui. Regardez, les Avdil, c'est pas que je cautionne ce journal, mais un journal qui était en faillite, édité à 60 000 exemplaires, 30 000 gratuits, maintenant il est édité, combien?
7 millions.
Il est arrivé à 7 millions, et encore non.
Maintenant, attention, les Avdil, face de Shalom. On cautionne pas ce... Oui, parce que c'est ça. On peut pas écraser la liberté. Alors, c'est pour ça que le rabbi avait dit, l'approche du rabbi, et c'est une approche qui a fait ses preuves, avec le recul de l'histoire, c'est une approche qui a fait ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une génération dans laquelle on a besoin de répéter ça par rapport à nos enfants. Parce que, ne vous leurrez pas, nos enfants, c'est la même chose. Ils vont se révolter contre les parents. Et c'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est écrit, c'est écrit dans les prophéties, c'est écrit que la génération avant Mashiach, les jeunes feront honte aux vieux. C'est écrit clairement. La Gemara dans le traité Sota d'ailleurs, à la fin.
La Chutzpah,
hein. Alors, voilà. Donc maintenant, le rabbi, il a dit comme ça. Il a dit dans son testament, le rabbi précédent nous a légué un enseignement très important. Il a dit, on n'écrase pas une folie. On remplace une folie par une autre. Donc, ces jeunes-là, au lieu de les écraser, au lieu de leur dire taisez-vous, d'accord? Et bon, bah, d'accord, excusez-moi du terme, fermez-la. Parce que c'est ce qu'ils faisaient les autres. Il a dit, bouclez-la, d'accord? Il les écrasait. Ça marchait pas. Il leur a dit pas du tout. Ils ont une énergie, ils ont envie de s'exprimer. On va leur donner, nous, la possibilité de s'exprimer. Le rabbi, il a pris des jeunes de 18, 19, 20 ans. Il leur a dit, vous voulez vous exprimer? Venez, je vous donne une ville. Vas-y, renverse la ville, retourne la ville. Ramène tout le monde à la Torah. Non, jamais on a donné des postes comme ça à des jeunes. Normalement, on donne ces postes-là à des gens qui sont des rabbanim, 40 ans, 50 ans, des gens qui sont déjà installés.
Des
on donne pas ça à des gens qui sont même pas mariés. Et là, tu viens voir un jeune, d'accord? On appelait ça d'ailleurs la jeunesse Lubavitch. C'est là que vient le nom. Tu viens voir un jeune et tu lui dis, c'est toi qui vas renverser la ville, c'est toi qui vas retourner la ville. Retourner la ville, c'est le mot qu'il disait. Ma pecha, tu vas faire une révolution. Un jeune, il entend ça, le mot révolution. C'est bon, il est branché, il y va. D'accord? Mais en vérité, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient d'utiliser, de canaliser et d'utiliser la folie négative qu'il avait et on l'a transformée par une folie positive. Ça, c'est l'enseignement de ce chapitre-là. Et ça, c'est le message qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est que ça ne sert à rien de vouloir écraser une folie, ça ne marchera pas. La seule solution à nous, c'est quoi? C'est de prendre cette folie et de l'utiliser dans le bien. Pareil, il y avait aussi la question, vous savez, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. À l'époque, d'accord, les femmes ne travaillaient pas. Et quand il y a eu cette fameuse révolte, alors les femmes ont voulu s'exprimer. Et le rabbi, il a dit la même chose. Il a dit, il n'y a pas de problème. Elle va s'exprimer. Faites-leur des cours de Torah. D'accord? Laissez-leur faire des cours de Torah à des femmes. Laissez-leur gérer des choses qu'ils peuvent gérer, comme des institutions de Torah, des écoles, etc. Mettez-les à des positions comme ça. Et vous savez que le rabbi a été très, très critiqué pour ça. Premières années, le rabbi, il avait pas peur de faire des rabbanim. Et comment on donne des positions comme ça à des femmes? La femme doit rester à l'intérieur, à la maison. Comment on prend des jeunes, on leur dit ils vont tout retourner, c'est pas leur place, c'est pas leur position. Il était très très critiqué pour ça.
Mais tu parles de rabbanim qui étaient
des rabbanim.
Des rabbanim
de plusieurs
pays,
courants. Des rabbanim de plusieurs courants. Ah oui, non, des rabbanim de plusieurs courants. Ce qui est logique d'ailleurs. Ce qui est logique, voilà, parce que. Et il était. C'était un des seuls.
Conservateur.
C'était un des seuls, voilà, qui n'était pas conservateur. Mm-hmm. Qui était pile le contraire. Et qui a dit on a un problème. Il faut attraper le taureau par les cornes, comme il dit. Ça veut dire, ne commence pas à faire la politique de l'autruche, dire, bon, on va attendre ça va passer, on va les écraser un peu, on va attendre. Non, ça passera pas. Ça s'est pas passé d'ailleurs. Mmh. D'accord? Donc, c'est quoi la réponse? La réponse.
On appelle le Yitzhara le chat.
Bien sûr. Voilà pourquoi. La Torah te dit ici qu'avec quoi on a construit le Mishkan? Avec du bois de Shittim. Pas Erez. Erez, c'est un cèdre. Mais avec quoi on a construit? Quel terme la Torah a employé? La Torah a employé le terme de Shittim. Le terme de folie. Pour te dire que le fait que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, est-ce que ça peut s'expliquer rationnellement?
Non.
40 jours après qu'on a reçu la Torah, Moïse n'a même pas eu le temps de nous faire descendre les tables de la loi. On est 40 jours après le mariage avec Dieu et on trompe son mari. C'est ça qui vient de se passer. 40 jours après le mariage, la femme qui est Israël, on a trompé son mari. C'est illogique. C'est incompréhensible. C'est irrationnel. Et pourtant, c'est une folie qu'on a fait. Alors cette folie-là, si tu vas répondre à cette folie-là par quelque chose de structuré, de cadré, ça marche pas. Il fallait répondre par une autre folie. C'est quoi la folie? C'est le Mishkan. Dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de l'or, de l'argent, on a fait en grand. Pour montrer, c'est une folie. Depuis quand on fait des choses comme ça? Pour la Torah, si on est dans la discrétion, on te dit non. On a fait, avec l'or, on a fait un veau d'or. Et bien avec ce même or, on va faire un grand Mishkan pour Dieu. Plein les yeux, plein la vue.
Pourtant, les plaies d'Égypte, c'est pas par la folie qu'il a répondu au pharaon.
Et c'est par quoi, là?
Ben, les miracles qu'il a fait.
C'est quoi, c'est pas la folie?
C'est pas, non.
C'était grandiose. Bien sûr, c'était grandiose.
C'était à l'encontre de, c'était surnaturel.
Normalement, il y a un dicton qui dit, l'obéra Hachem. Roi Salomon, il dit. Il dit, normalement, tout ce qui est lié à Dieu, c'est pas dans le bruit, c'est dans le calme. D'accord? C'est dans le benachat, dans le calme, dans la sérénité. Et là, tout d'un coup, c'est vrai, c'est pour ça que c'est bizarre. Les juifs étaient même choqués. Ils ont dit, mais attends, on va faire une maison pour Dieu. Une maison pour Dieu, on va mettre de l'or. Mais de l'or, c'est fait pour les idolâtres. Nous, une maison pour Dieu doit être quelque chose de simple, d'épuré, le plus simple possible, d'accord? Le plus simple possible. Et là, on te met plein la vue. De l'or, de l'argent, du cuivre, partout on pouvait en mettre. Partout. Tu rentres, tu vois que de l'or. Des étoffes. Vous savez comment ça valait les étoffes? Des étoffes, ça vaut plus cher. À l'époque, ça valait plus cher que l'or encore. Des étoffes magnifiques avec des tissus qu'on trouvait nulle part. Les Bnei Israël disent, attends. Eh oui, on leur a répondu, c'est ça la folie. La folie, c'est que tu réponds à une folie par une autre folie. Donc, on a déjà ici un premier enseignement, mais on va développer encore dans la suite. La folie, c'est que la même chose. Si le Yitzhara m'attaque par une folie, je réponds à ça par une folie. Exemple, je vous donne des exemples. Après, chacun, il expliquera, chacun, il adaptera par rapport à son niveau. Par exemple, si une personne estime qu'à son niveau, mettre les tefillin tous les matins et faire le schéma Israël, c'est déjà, bon, c'est bien, c'est son niveau. Tu vas commencer à lui dire de faire, l'Amida, de faire ce qu'il y a avant, de faire les torettes, les hacherets, les ishtabar, etc. Il dit, bon, écoute ça. Il y a des gens à la synagogue qui le font, mais c'est pas mon truc. D'accord? Alors c'est vrai. Ça peut s'expliquer. Et bien, il y a des avis dans la Gemara qui te disent qu'il y avait des gens, voilà, qui savaient pas très bien lire, ou qui étaient pas allés dedans, et qui faisaient le schéma, et qu'on leur disait, quoi, la cavode, on leur dresse tapis rouge, j'ai pas de problème avec ça. Seulement, comme le Yetzara me pousse à faire une folie, comment je réponds à ça? Je réponds à ça par une folie. La folie, tu me pousses à faire une folie, et bien moi, si je veux faire une folie, tac, tu lui rajoutes un truc. Et ça, c'est la seule manière de répondre, c'est la seule manière de répondre au Yetzara. Pour répondre à la folie, il faut, d'accord, répondre par une autre folie. Et d'ailleurs, j'ai entendu une fois un rav qui disait comme ça, il disait, il n'y a qu'une personne qui a goûté ce que c'est la nuit, qui peut comprendre ce que c'est être assis pour rester étudier la Torah 5 heures d'affilée jusqu'à 5 heures du matin. Quelqu'un qui a toujours été carré dans sa vie, bonhomme, toujours 10 heures du soir, il va dormir. C'est pas ce que c'est la nuit. Mais quelqu'un qui a connu la vera, qui a connu la folie, et qu'après il a transformé cette folie. Au lieu de jouer à la PlayStation, au lieu de jouer au lieu d'être en boîte de nuit, il était là en train d'étudier la Torah. Là, il sent qu'il a fait quelque chose. D'accord ? Quoi ?
C'est bien les boîtes de nuit. Qu'est-ce que t'en sais, toi, si c'est bien ?
Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il en sait? Ok. Alors, donc là-bas, il explique comme ça. Alors, je voudrais. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup sur le texte de Tania, parce que comme on a parlé de la folie, j'ai voulu m'arrêter un peu sur ce thème-là, qui est, je pense, très important, surtout que c'est lié à l'actualité, le 10 Shvat, qui est la Hiloula du rabbi précédent. Donc, c'est lié à l'actualité.
Le 9 Shvat, c'est l'anniversaire de Hana.
Mazal Tov. Alors. Le Chaim.
C'est bon.
Alors.
Razak. Merci.
Je voudrais m'arrêter maintenant un petit peu plus sur cette notion de la folie. On dit comme ça, on explique au Hassidut comme ça. On dit, il y a la logique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, en fait, je vous fais un condensé d'un Mahamar, du texte que le Rabbi l'avait fait en 5735, donc 1975. Donc, on était déjà dans le cinquième chapitre du deuxième cycle. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans ce texte là-bas, il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, de manière générale, on peut structurer le monde en trois niveaux. Il y a ce qui est structuré, ce qui est cadré. Il y a ce qui est rationnel, il y a ce qui est en dessous de la logique, et il y a ce qui est au-dessus de la logique. J'explique. Il y a ce qui est structuré. Ce qui est structuré, c'est-à-dire je me comporte, j'ai un judaïsme qui correspond à mon style. Bon,
on peut dire que c'est une normalité.
C'est une normalité, voilà. C'est une normalité, d'accord. C'est ma norme par rapport à mon éducation, c'est la norme. Après, tu as une folie qui est en dessous de la logique. Ça, c'est quand je fais une avéra. C'est en dessous de la logique. Je fais une avéra, la preuve c'est qu'après, dès que j'ai fini la avéra, que je remonte à la logique, tout de suite je me dis, mais jamais j'aurais pu faire ça. Je suis fou.
Même pendant,
c'est possible. Mais en général, pendant, on est dans le feu. Donc on s'en parle. Bon. Donc on est en dessous. En dessous de la logique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle au-dessus de la logique. C'est quoi au-dessus de la logique? Au-dessus de la logique, c'est quand tu fais une folie dans la Kedusha. Que toi-même, t'es pas capable d'expliquer pourquoi tu l'as fait. T'as fait une folie.
Par exemple,
d'accord, t'as donné la tzedaka beaucoup plus que tes moyens, t'as étudié la Torah beaucoup plus que ce que tu devais faire, t'as fait une fila beaucoup plus longue que d'habitude, t'as fait une folie, t'as fait un kiff, t'as fait une folie. Mais ça, bien sûr, c'est une folie, parce que ça me correspond pas. C'est pas moi. C'est pas mon style. C'est pas ma norme. Et je l'ai dépassé. Mais ça, c'est une folie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas logique, mais c'est une folie qui dépasse la logique. Qui n'est pas en dessous de la logique, c'est une folie qui est au-dessus de la logique. Je vais vous donner plusieurs exemples. Premier exemple, la Gemara elle raconte qu'il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Zera. Et ce maître Rabbi Zera, lorsqu'il est parti de ce monde, sur sa tombe, il y avait un miracle, il y avait une colonne de feu. Une grande colonne de feu qui allait jusqu'au ciel. Bon, je ne sais pas si vous comprenez le sens littéral, mais en tout cas, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Il y avait une grande colonne de feu. Et les Rahamim étaient... Et ça les intriguait, parce qu'ils savaient que normalement, le mérite comme ça d'avoir une colonne de feu qui monte de la tombe jusqu'à chez Hachem, en tout cas que les Rahamim peuvent le voir, c'est... Une personne, maximum deux personnes par génération. Donc ils se sont dit, ce Rabbi Zera, il a dû faire quelque chose d'énorme. Pourtant, dans sa vie, il n'y avait rien de particulier. En tout cas, par rapport aux autres Rahamim.
En apparence,
il n'y avait rien de particulier. Donc les Rahamim se sont posé la question, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Zera, qu'il a eu ce mérite, qu'il y a une colonne de feu qui monte jusqu'à chez Hachem? Ils ont cherché, et là ils se sont rappelés que Rabbi Zera, il venait à tous les mariages. Et quand il venait au mariage, dans les mariages, Rabbi Zera, il faisait le fou. Quand je dis le fou, il commençait à danser comme un fou. Il prenait des hadassim, comme ça c'était l'habitude, il commençait à jongler. Et les élèves étaient gênés, ils avaient honte. Ils disaient, mais Rabbi, c'est pas de votre rang. D'accord? C'est pas logique, c'est irrationnel ce que vous faites. C'est pas bien. Et lui, Rabbi Zara, il dit, non, moi je fais ça pour être mes sa mère, pour réjouir le Khatan Vekala. Bon, les élèves, ils disaient rien. Du coup, le Rabbi faisait ça, et aussi, ils se mettaient à danser un peu comme ils pouvaient. En plus, ils dansaient bien. Et c'est tout. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est toujours quelque chose qui a été un peu, intrigué les sages. Pas intrigué, ils disaient un peu, bon, il est un peu, peut-être,
fatigué.
Marginal, d'accord. Bon, tu veux. Et les gens, ils pensaient comme ça. Et là, les Chachamim, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, mais finalement, c'est ça son mérite. Son mérite, c'est quoi? C'est qu'il a fait une folie dans la Kdoucha. C'est que dans la Kdoucha, c'était pas de son rang de faire ce qu'il a fait. C'était pas de son rang d'aller danser. Mais lui, quand il venait, il sentait qu'il manquait de la Simra. De son rang, pas de son rang, il dit, moi, je suis là, je mets de la Simra. Maintenant, c'est un simple mariage, un simple Khatan, une simple Kalaz, vraiment des gens simples. D'accord? Mais lui, il vient. Il dit, je fais une folie, je dépasse la logique. Vous savez chez qui on voit ça aussi? Le roi David. David Ameler. David Ameler, il dit à un moment, dans un Tehilim, dans le psaume 73, il dit, va'ani va'ar velo eda. Il dit, je suis qu'un imbécile. David Ameler, un imbécile. Comme ça, il parle. Il dit, moi, behemoth haïti, ma poche, je suis comme un animal devant toi, Dieu. David Ameler, il se traite d'imbécile, mais c'est une insulte. Pourquoi il se traite comme ça? Alors en fait, il y a plusieurs exemples. On voit que David Ameler, lorsqu'il y avait une fois, le Aaron, l'arche sainte, donc dans laquelle il y avait les tables de la loi, qui partait toujours en guerre. Vous savez que chaque fois qu'on partait en guerre, il y avait l'arche sainte qui marchait devant. C'était comme ça. Et une fois, les Philistins, pas les Palestiniens, ça n'existe pas ça. Les Philistins, ils ont compris que la force, ce qui donnait la force au Béni Israël, c'était l'arche sainte. Alors, les Philistins, ils ont dit, si on leur prend l'arche sainte, on va les faire tomber. Ils sont morts. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une opération. Ils ont fait comme s'il y avait une guerre. Mais dans la guerre, ils sont focalisés sur une chose. Il faut qu'on prenne en otage, c'est le terme qu'on a donné dans la Torah, prendre en otage le Aaron, l'Arche Sainte. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu parce que les autres, ils étaient en train de chercher d'autres ports, d'autres missions. Eux, ils ont pris leur Aaron. Une fois qu'on a pris le Aaron, c'est fini, les Béné Israël ont perdu. Maintenant, entre-temps, les Philistins, ça s'est pas passé facilement. Ils l'ont gardé pendant 6 mois chez eux. Tous les jours, il y avait des morts. Des épidémies, des morts, des galères, enfin des trucs. Et là, on l'a demandé aux anciens des Philistins. Les anciens, ils ont dit, écoutez, c'est l'arche que vous avez pris. Elle vous porte pas bonheur. Vous savez pas vous en servir. Elle vous porte pas bonheur. Alors, ils ont pas eu le choix. Ils ont convoqué les Juifs pour leur rendre. Ils ont pas eu le choix. Puisqu'ils avaient peur de ce que ça pouvait arriver. Donc, ils ont fait un rendez-vous, un checkpoint, etc. Bon. Et ils ont rendu. Et là, quand ils ont rendu, donc on a annoncé qu'on allait rendre. Et là, David Ameler, il est venu, il est sorti de chez lui. Et il a couru pour aller vers l'endroit où on allait amener le Aaron à Kodesh. Donc, il y avait des gens qui portaient le Aaron. En fait, il se portait tout seul. C'est un autre miracle, ça aussi. C'est-à-dire juste, pour la forme qu'on le portait. Et David Ameler, il a commencé à danser. Mais quand je vous dis danser, c'est pas danser. C'est mes fazes ou mes carquers, dit la Gemara. C'est le pastou, pardon. Ça veut dire qu'il faisait des calipèdes, des cabrioles. Alors, il y avait sa femme. Sa femme qui était Michal. Michal, la fille de Shaoul. Shaoul, c'était l'ancien roi, celui qui était en guerre contre David. Et sa fille s'était mariée avec David Ameler. Et Michal, elle est partie envoyer un message à son mari. Elle est même venue le voir. Elle lui a dit, mais arrête. C'est honteux, ça se fait pas, t'es un roi. Qu'est-ce que le roi fait des cabrioles?
Tiens-toi.
Mais il a pas écouté David Ameler. Il l'a pas écouté. Au contraire, il a dit laisse-moi tranquille, etc. Et il a dansé comme un fou. Et David Ameler, il a parlé de ça dans ses pasouks, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai atteint un niveau de folie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit ici un deuxième exemple. Donc on a donné plusieurs exemples de Rabbi Zera, l'exemple de David Ameler, de grandes personnes de l'histoire, mais qui à un moment, ils étaient au-delà de la logique. D'ailleurs, la Gemara nous dit que pour atteindre la prophétie, il fallait être en transe. C'est quoi, comment on se met en transe? C'est pas en prenant des substances illicites. D'accord? On se met en transe, il se met dans un état second. Et quand il se mettait dans un état second, on raconte qu'il y avait les prophètes, il se mettait à rouler par terre. C'est choquant pour nous. Parce que nous, quand on a l'image du rabbin structuré, comme ça, carré, etc., tu dis maintenant un rabbin qui se roule par terre, mais tu dis c'est pas possible, c'est un fou. Troisième anecdote, après on va aller dans la suite. Troisième anecdote. L'Admour Hazaken, le fondateur de la Chassidut Rabat. On raconte que lui, ça arrivait très souvent, dans cette fila. Bon, il faisait la tefila avec le Tzibour, il écoutait le Baruch Hu, etc., etc. Mais après, il allait continuer la tefila dans sa chambre. Cette tefila durait des heures. Bon, c'était pas limité dans le temps. Et il faisait cette tefila, et on le laissait tout seul. Alors déjà, on dit, dans les murs autour de sa pièce, on a fait poser des coussins partout. Parce qu'il avait une telle inspiration, et il avait une telle chaleur dans cette tefila, qu'il prenait le stender avec lui. D'accord, le stander sur lequel il avait son sidour, et il bougeait dans tous les sens, à tel point qu'il risquait de se blesser. Donc sa famille, ils ont fait installer des coussins partout, j'ai pas fini. Des fois, en pleine file, on entendait boum. Et là, on ouvrait la porte, qu'est-ce qu'on voyait? Le Morazaken était par terre en train de se rouler. Se rouler par terre.
Avec qui se battait?
D'accord. Personne.
D'accord.
C'est ouvert.
Et donc, j'étais en train de dire que les élèves, d'accord. Alors, bien sûr, sa famille venait tout de suite. Sa famille venait tout de suite. Bonsoir. Voilà.
Alors, sa famille.
Oui. Donc, j'étais en train de dire que sa famille, il venait tout de suite. Bonsoir. Et tout de suite, ils essayaient de le relever. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Admor HaZaken, il était comme ça. L'Admor HaZaken, il était tellement à fond dans cette fila. D'accord? Tellement il était à fond dans cette fila, que du coup, il partait en transe. Vous savez, les Avdil, on peut donner un exemple, on voit ça des fois parmi chez les musiciens.
On sait contre qui se battait.
Bien sûr. On voit ça chez les musiciens.
Chez les Gnawa.
Non, mais chez les musiciens. Quand t'as un musicien qui rentre dans sa musique, qui plonge dans sa musique, il rentre en transe, il est capable de casser sa guitare. On a vu des gens, des maboules, dans des concerts.
Oui,
d'accord.
Les Syriens, la
mais c'est pas que les Syriens. Prenez par exemple les Avdil, d'accord. Les Avdil, hein, bien sûr. Mais pour vous montrer comment la même folie existe. Prenez par exemple des gens qui font dans des concerts de rock ou de, je sais pas, de bêtises comme ça, qui vont faire un concert à un moment tellement ils sont dans la rage, tellement ils sont dans la transe, ils cassent la guitare. Mmh. Pourquoi il fait ça?
Jimi Hendrix.
D'accord? Mmh. Tu crois que c'est juste un trick? D'accord? C'est juste une technique pour attirer les gens? Non. Parce que dans le mal, on peut rentrer dans une telle transe que tu fais une folie. C'est une folie. Pourquoi il casse sa guitare? Il est fou, quoi. D'accord? Il aurait pu la vendre, il aurait gagné. Non. Pas spécialement. Ouais. Pas spécialement. Non, sache-le. Oui. Parce que c'est écrit que la musique peut amener une personne à un état de transe. La musique.
Ah bon.
Les Avdil, c'est la même chose dans le bien. Dans le bien aussi, quand une personne fait la tefila, il y a des rabbanis, des tzadikim, comme le Admor HaZaken, qui faisaient la tefila à un tel niveau, qui partaient en transe. On raconte le Admor de Moditz. Le Admor de Moditz, c'était quelqu'un qui était très spécialisé dans la musique. C'est le rabbi qui a raconté ça dans Zafarungen. Et il a dit, une fois, on devait l'opérer. Il y avait une opération à faire. Et à l'époque, il n'y avait pas l'anesthésie comme aujourd'hui. À l'époque, quand on voulait opérer quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait?
Soit on le saoulait,
soit on l'hypnotisait. C'est les deux techniques qu'il y avait à l'époque. D'accord? On l'hypnotisait, soit on le saoulait, mais bon, c'était quand même risqué. Parce que le risque, c'est qu'il se réveille. Alors, la demande de Maudit, quand il a voulu faire l'opération, on lui a dit, voilà, on va vous hypnotiser. Il a dit, pourquoi hypnotiser? Il n'y a pas besoin. Il a dit, regardez, je vais commencer à chanter. Et dans quelques minutes, vous sentirez que je suis ailleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne sentirai rien. Il a commencé à chanter pendant une heure. Au bout de quelques minutes, on a senti qu'il est parti. Ils l'ont ouvert, ils ont opéré, ils ont tout fait. Il n'a rien senti, il est en train de chanter. Vous expliquez ça? C'est une vraie histoire. Une histoire qui s'est passée. Ça veut dire qu'on voit d'ici que de la même manière qu'il y a la folie qui existe dans le Lerumadze, dans le mal, la folie qui est en dessous de la logique, il y a aussi la folie qui est au-dessus de la logique. Passer dans un état second, passer dans un état qui est complètement irrationnel, mais qui est au-delà de la logique, qui est pas Hasvei Shalom, quelque chose de négatif. D'accord? Donc ça, c'est, avec ça, je voulais expliquer la raison pour laquelle le challenge d'aujourd'hui, comme on a expliqué, c'est de répondre à la folie par une autre folie. Et c'est la seule manière, c'est la seule manière que ça peut marcher. Alors,
T'as aussi le cas contraire.
Oui.
C'est-à-dire que tu as aussi, quand tu as un grand élan dans la Gdusha, là aussi, le Yetzer Hara, il te laisse, il est encore plus vicieux. C'est-à-dire qu'il te lâche ta bride, et là, vas-y, tu veux te claquer dans la Torah, vas-y, éclate-toi. Je t'attends au premier tournant. Et ça aussi, ça arrive. Le shtout, il est encore plus fort.
Et il va être lancé une autre folie.
Ça, il te relance.
Une autre folie.
Une folie bon. qui est très forte aussi. Plus tu fais rentrer... Enfin, disons que normalement, pour remplir un keli qui est plein de boue, tu mets beaucoup d'eau pour le remplir avec les bonnes choses. Mais d'un autre côté, je parle peut-être pour moi, mais quand tu remplis beaucoup avec de la Torah, tu as aussi une contre-attaque.
C'est la guerre.
Oui, qui te dit pour qui tu te prends, etc. En fait, il te pousse un maximum pour que tu te casses la figure, et après il te récupère.
Ouais, c'est ça.
Tu as raison. Ça peut être une... vous savez qu'en passant, vouloir aller trop vite, c'est une folie aussi. Mais le problème, c'est que faire une folie comme... Non, c'est la réponse. C'est qu'une personne qui d'emblée veut faire une folie, évidemment, on lui dit non, ne fais pas de folie. Mais s'il fait la folie pour contrer une autre folie, c'est autre chose. C'est comme l'exemple des jeunes que j'ai donné. Tu prends un jeune classique, il y a deux siècles, tu lui dis, va aller dans une ville pour aller ramener tout le monde à la Teshuva. Il va dire, non, c'est pas moi. Il faut envoyer quelqu'un qui est plus âgé pour ça. Mais tu prends un jeune qui est déjà maboule, il est déjà parti, il a déjà le feu aux poudres. Tu lui dis, écoute, garde ton feu aux poudres, mais au lieu de le diriger là, tu le diriges là. C'est pas la même chose.
Donc tu parles de canaliser.
En fait. D'ailleurs, en passant, vous savez, on dit que tout à l'heure, tu as parlé du shor. On dit que le rabbi précédent, puisque c'est ça, Iloula, ce vendredi, le rabbi précédent, il aimait les gens chauds. Il aimait les gens chauds. Parce qu'il disait, les gens chauds, les gens chauds, les gens nerveux, les gens chauds comme ça. D'accord ?
Il aimait les séparades.
Parce qu'il disait comme ça. Il disait
que. Non, il aimait les plus jeunes.
Ça, c'est la semaine prochaine, Yitro.
Alors,
et il disait comme ça. Il disait, quelqu'un de chaud, certes, il a un défaut. Certes, il a un défaut, c'est qu'il est trop chaud et que quand il s'énerve, il peut faire des catastrophes. Mais quand tu arrives à le canaliser, il te fait des choses extraordinaires que personne ne peut faire. Encore une fois, c'est la même approche du rabbi précédent. Et d'ailleurs, nous, on a connu chez le rabbi, mais apparemment, le rabbi a compris ça du testament du rabbi précédent. Ce fameux testament qu'on m'a expliqué, que ça ne sert à rien de chercher à casser quelque chose, il faut essayer de le récupérer et de le transformer, pour aller à la Kiddusha. Je vais rajouter encore un autre point. C'est un mot du Baal Shem Tov que je pense que maintenant on va comprendre avec ce qu'on a dit.
Est-ce que le rabbi, il était en transe aussi?
On n'a pas vu ça.
Bah, on a vu qu'il se tenait la main en dessous de la table.
On n'a pas vu ça. On a vu à certains moments. D'abord, il faut savoir que pendant les premières années, le rabbi, la majorité des tefilotes, il est prié dans son bureau. Ça veut dire qu'il descendait avec le tibour pour Baruchou, etc. Mais la tefila, elle est prise dans son bureau. On ne sait pas combien de temps durait cette tefila. Il y a des secrétaires qui disent que des fois elle durait des heures, je ne sais pas.
Je ne peux
pas
savoir. Vous voyez danser ou autre, non,
non. On n'a pas entendu ça.
Il n'y avait pas de témoin.
Non, il était très modeste, ce rabbi.
Je sais, on n'a pas vu. Bon, on a vu la transe chez le rabbi, ça. On a vu la transe. Le rabbi, quand il partait dans un igoun, tu le voyais.
Enthousiaste.
Je vais te dire honnêtement, d'accord, mais la même chose. Le rabbi, avec la chorma qu'il avait, avec le statut qu'il avait, il y a des gens qui étaient peut-être choqués. Ils disent, mais qu'est-ce qu'un rabbin, il est là en train de faire comme ça, comme ça, comme ça? Qu'est-ce qui bouge? Il parle pas. Qu'est-ce qui bouge? Je pense que c'est la même chose, c'est la même idée. C'est que pour répondre à la folie de ce monde-ci, quand t'as l'Yetzara qui t'envoie une folie, qui t'envoie des bêtises dans la tête, il faut une expérience qui te fait vibrer. Et bon, un Dvar Torah, c'est pas forcément qui va te faire vibrer aussi fort qu'un Rav qui va t'encourager à vivre. Donc il faut répondre à ce qui te fait vibrer par une autre chose qui te fait vibrer. C'est la logique de ce monde-ci. D'accord? C'est la logique de ce monde-ci. Alors, je voudrais rajouter encore un autre point du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a écrit aussi un testament. Alors, on l'appelle ça le testament du Baal Shem Tov, mais c'est pas vraiment un testament. C'est différents textes qu'il a dit à la fin de sa vie qui ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle Tzava'at Aribash. Donc Tzava'at, le testament, c'est un hébreu moderne, ça, Aribash. Aribash est les initiales de Rabbi Israël Baal Shem, c'est son nom. Et je vais vous dire ce qu'il dit là-bas dans ce testament. Il dit, « A derech ha'amitit bitfila », c'est quoi le vrai derech, le vrai chemin qu'on doit suivre dans la tfila, « Sheit palel adam bofen kaze », qu'un homme doit prier d'une manière, « Sheze shenish achay le'acharei ha'tfila », il doit prier d'une manière que s'il arrive à rester en vie après la tefila, Eino ela chasdo shel hakadosh baruch hu, c'est seulement grâce à une bonté divine. Vous voyez ce qu'il dit Baal Shem Tov? Il dit que une tefila extraordinaire, c'est quoi? C'est une tefila qu'après que tu as fini ta tefila, tu dis mais quand je suis encore en vie? Et je vous raconte aussi, j'ai beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Je vous raconte une anecdote pour illustrer ça. On raconte qu'il y avait un des élèves du Baal Shem Tov qui avait une tefila particulièrement en transe. Et je crois que ça s'appelait Rabbi Michal de Zlotcher, si je ne me trompe pas. Et le Baal Shem Tov, il a prévenu les membres de sa famille. Il leur a dit, écoutez, votre père est quelqu'un qui a une transe très puissante dans la tefila. Et il a un faible pour le Alenu. Le Alenu le Shaber. Son Alenu le Shaber, il durait des heures. Vous savez, le Alenu le Shaber, comme il y a des secrets dedans.
C'est la fin. Quoi.
C'est la fin. Nous, on le fait à la fin comme ça. Vous savez combien il y a de secrets dans le Alenu le Shaber. Chaque mot, c'est une puissance énorme. Et il a dit, donc votre père a une transe dans la tefila et il a un faible pour le Alenu. Faites attention. Quand vous voyez qu'il part trop en transe, secouez-le qui s'arrête, parce que sinon il risque de partir. Alors donc toujours, quand il est en train de faire cette fille-là, il y avait toujours un enfant à lui ou quelqu'un de la famille qui était là à le guetter, et il attendait dès qu'il arrivait à Lénou. En général, ça prenait du temps avant qu'il arrive à Lénou, et quand il arrivait à Lénou, il le guettait, et dès qu'il voyait qu'il commençait à partir, hop, il le prenait, le secouait, il disait oui, c'est bon, ça va, je suis là. Et il le secouait, il le ramenait comme ça. Bon. Et on raconte qu'une fois, ce rabbi, il était en train de faire cette fille-là, il a fini la mida. Et bon, normalement, celui qui était le membre de sa famille, il savait que le temps qu'il arrivait à Lénou, ça allait prendre encore de longues minutes. Donc, entre temps, il est parti faire une petite course. Il revient, il voit Rabbi Michal par terre mort. Voilà. Après, il y a des versets dans l'histoire, est-ce qu'elle a été ressuscitée ou pas, mais en tout cas, apparemment, il a accéléré la fila pour arriver à Lénou. Il arrivait à Lénou, il n'y avait personne, et il est parti en transe. D'accord? Pour montrer quoi? Pour montrer qu'il y a un niveau de folie de la Kdusha. C'est ça ce que je veux montrer. C'est qu'il y a un niveau de folie dans la Kdusha. Quand tu pars en transe, tu pars dans une folie, tu pars dans quelque chose qui ne correspond pas à toi. Et enfin, une dernière histoire, après on va avancer un peu dans le texte. Dernière histoire, c'est l'Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad. On raconte qu'une fois, l'Admour HaZaken, lorsqu'il s'est approché du Magid de Meziritch. Vous savez que l'Admour HaZaken a... a fait connaissance avec la chassidoute assez tardivement. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne connaissait pas la chassidoute. Et quand il cherchait une manière, comment se rapprocher de Dieu, comment faire la tefila comme il faut, d'accord, comment comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il est parti, il a cherché, et il avait deux choix qui s'offraient à lui. Un choix qui s'offrait à lui, c'était aller à Vilna. Un autre choix, c'était aller à Meseritch. Alors, il s'est renseigné. Qu'est-ce que je vais apprendre à Vilna? On lui a dit, à Vilna, tu vas apprendre la Gemara. Il a dit, la Gemara, bon, il est, à cette époque-là, il était déjà Baki des chasses, Gemara, tout, il connaissait déjà tout. D'accord? Donc il a dit, la Gemara, je pense que je connais déjà un petit peu. Mais la tefila, j'y connais rien. Alors il a dit, je vais aller voir ce qu'il y a à Meseritch. Il va à Meseritch, d'accord? Bon, il y a toute une histoire là-bas, il est parti, etc. Il va à Meseritch, et là, donc au début, il part, il comprend rien, il arrive à 10h du matin, il voit les gens encore en train de prier, il dit, mais c'est quoi ces gens-là? À 10h, ils sont en train de prier. Il est reparti. Écoutez l'histoire. Il est reparti. Et Dieu a fait qu'il a oublié son pull. Alors il a oublié son pull, donc il a déjà marché déjà quelques kilomètres, il se rappelle qu'il a oublié son pull, bon, il était pas riche. Donc il retourne pour aller chercher son pull, et là, il s'était déjà assis en train d'étudier. Et là, il entend le Magid de Meseritch en train d'étudier une souvia de Gemara, très compliquée. Et il dit, ah, tiens, la Gemara, je connais, là, je vais l'écouter, on va voir ce qu'ils ont raconté. Et là, il voit comment le Magid de Meseritch prend la souvia, il la retombe complètement, il explique d'après le sod, d'après, il la retombe dans tous les sens. Il a entendu ça, il était épaté, il a dit, je reste. Il est resté. Alors, bien sûr, le Magid de Meseritch a fait connaissance avec lui, etc. Ils ont discuté. Et bon, le Magid de Meseritch, qu'est-ce qui vous amène ici? Il a dit, voilà, j'aimerais apprendre, etc. Alors, le Magid de Meseritch, je lui ai dit, écoutez, je vais faire un deal avec vous. J'ai un fils qui s'appelle Rabbi Avraham. On l'appelait Rabbi Avraham l'ange, Rabbi Avraham Amalach. Ce fils, il est très très fort en Kabbalah. En Gemara, un peu moins. Vous êtes très très fort en Gemara, mais en Kabbalah, un peu moins. Alors, on va faire un deal. Vous étudiez une heure avec lui, et lui, il étudie une heure avec vous tous les jours. Marché conclu? Alors, on a demandé à Rabbi Avraham, il est d'accord. On a demandé à Admor Zaken, Rabbi Shneur Zalman, il est d'accord. Les deux, ils sont d'accord. Très bien. Donc, ils avaient le deal, la Gemara, etc. Mais il y avait un deal, c'est-à-dire qu'il y avait la montre. Dès que la montre arrivait, d'accord, pile à l'heure, il fallait enfermer la Kabbalah, on ouvrait la Gemara. Bon, c'est comme ça qu'il faisait. Admor Zaken, il a avoué par la suite que ça lui arrivait souvent quand quand son ami, il était en train de partir en transe, il prenait la montre, il la tournait un petit peu, il la déréglait. Pour que l'heure dure plus longtemps. Comme ça, il a raconté. Et il a raconté comme ça. Il a dit, quand on étudiait la Kabbalah avec Rabbi Avraham, il est arrivé plusieurs fois qu'on partait en transe et qu'on sentait que, vous savez, on sentait qu'on allait partir, comme la Davaviou, les enfants de Aaron, qui allaient partir. Il a raconté, il a dit, une fois, on était une situation vraiment, on allait partir. Alors, j'ai dit à Rabbi Avraham, j'ai dit, il faut qu'on s'arrête. Mais on est en train de partir. On est dans une telle transe que notre Neshama, elle voulait une seule chose, c'est quitter notre corps. Pour vous imaginer le niveau de cette adikim-là. Et il a dit, à ce moment-là, j'ai sorti un pain avec du beurre. Vous savez, il a raconté. Du pain avec du beurre. Normalement, il mangeait que le pain tout court. Et là, il a dit, on a mangé du pain avec du beurre. Il a dit, quand on a mangé le pain avec le beurre, ça nous a ramené ici-bas sur Terre. Pourquoi je raconte tout ça? Pour montrer que de la même manière qu'on voit, mais c'est très important ce que j'explique ici. Je vous raconte, évidemment qu'on est à des années-lumière de ça. Vérité, pourquoi je raconte ces histoires? On est à des années-lumière de ça. Qu'est-ce qu'on est, quel rapport avec nous maintenant? Est-ce qu'on est à un niveau comme ça, qu'il y a pour éviter, pour le risque d'une transe, on va devoir nous retenir? On est très très loin de ça. Pourquoi je vous raconte ces histoires-là? Pour vous montrer que de la même manière qu'on voit dans le monde du mal, dans le monde d'Ileroumadze, d'accord, dans le monde des bêtises, qu'il y a des gens qui partent dans des transes énormes. Ça veut dire qu'ils mettent toute leur énergie dedans. Et on le voit, ça. Des gens qui ils se mettent à fond dedans, ils sont tout leur cœur, toute leur âme, ils vibrent à 100%. Et bien sachez qu'il y a exactement la même chose dans la Kedusha. Alors, maintenant évidemment, nous on n'est pas aussi extrême que ça, c'est-à-dire ni dans le mal, ni dans le bien. Mais une personne qui est à l'extrême comme ça dans le mal, et bien quand il revient, il est à l'extrême dans le bien aussi. Et on a des exemples, on a beaucoup d'exemples de gens comme ça, qui quand ils étaient dans le mal, ils étaient à l'extrême, ils sont revenus, Rosh Hashiva. Parce que c'est comme ça, quelqu'un qui est à l'extrême, quand il est extrême à gauche, il part complètement à gauche. Il le prend à l'extrême à droite, il part complètement à droite. Nous, on n'est pas extrémistes comme ça. Nous, on est plutôt au centre, on est plutôt centriste. Mais au moins, ce qu'on doit savoir, c'est que pour répondre à une folie de gauche, il faut répondre par une folie de droite.
D'extrême droite.
D'extrême droite à notre niveau. Voilà. Bon, ça c'était le. Ok. Après, il y a beaucoup de choses encore qui expliquent ici, mais on va avancer un peu dans le Tanya, parce que moi, c'est un cours de Tanya quand même.
Aujourd'hui, c'est amusant la brouille.
Ah bon? Il dit aussi, oui.
C'est un accident, c'est
Madame Chaim. Il dit aussi, c'est la raison pour laquelle on a vu des grands rabbanim qui dansaient, et que voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient.
Extraordinaire.
Oui.
De voir un rabbin danser.
Pourquoi c'est extraordinaire?
Parce qu'il t'entraîne.
Parce que
enthousiaste. Donc tu ne t'attends pas à ce qu'il soit comme ça.
Mais est-ce que non, c'est pas seulement ça. Pourquoi tu n'arrives pas à vibrer la même chose par une étude de Torah? Alors je te réponds, c'est très simple. Si c'était une personne, qu'est-ce qu'il fait vibrer? C'est les sciences profanes. D'accord, c'est les sciences interdites, les sciences profanes. Alors là, dans ce cas-là, cette personne-là, c'est quoi la contrat pour lui? C'est de lui donner des sciences de la Torah. Et de prendre la Gemara, de prendre du Zohar, et d'approfondir à fond pour vibrer l'étude. Mais si la personne, ce qu'il fait vibrer, c'est pas forcément les sciences profanes. Ce qu'il fait vibrer, c'est la Averot. Tu peux pas lui répondre avec une étude. Il faut lui répondre avec ce qu'il fait vibrer. D'accord? Ça, c'est ce qu'il explique ici. Ok. On va avancer un petit peu maintenant. Alors, dans les mots, Vezeuklal, page 247. Vous avez dans les mots? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ce Benitel, je vous ai pas entendu aujourd'hui. Hein.
Mais les trucs là, il y a pas de questions là-dedans. Hein. Il faut.
Il a bu les paroles du rap.
Monsieur Benitel, vous êtes fou ou normal?
Non, je suis Benoni, moi. Ça fait chliné malé.
Monsieur Benita, plutôt rationnel ou plutôt irrationnel?
Bah, plutôt rationnel.
Plutôt rationnel. Jamais vous faites des folies, ça vous arrive jamais?
Si, si, ça dépend pour qui.
J'en fais, mais pas ici.
Ben justement.
Ben justement, si vous faites des folies dehors, vous faites des folies ici aussi.
Alors, je danse sur la table.
Allez-y. Servez-le, servez-le, le Chaim.
Et Allah, c'est bien. Le Chaim.
Ok, on y va. Alors, dans les mots, je suis à la page 247 en bas de la page.
Ça dépend des folies, où est-ce qu'il
a... Ça dépend?
Ça dépend où est-ce qu'il est son niveau de...
Non, ça dépend si la folie est en dessous ou au-dessus. C'est très simple, ça veut dire, si ma folie était juste en dessous, je suis pas juste au-dessus, c'est bon. Si ma folie était très en dessous, bah, il faut aller très au-dessus, et c'est comme ça que c'est... Et après, naturellement, on revient au milieu. C'est logique, d'accord? C'est tout là, tu remontes là comme ça, et tu le ressors, ouais, tu reviens au milieu. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Alors, c'est 247. Ah non, toi, chez toi, c'est...
Ça doit être la page...
Non, non, 247, en bas de la page. Il dit, « Vezeu klal bechol sitra dekdusha. » Le principe qu'on a expliqué maintenant, c'est un principe qui est applicable. « Bechol sitra dekdusha. » Dans tout ce qui est lié au côté de la kedusha, j'explique tout juste ce qu'il veut dire ici. Abatel bimtsiud be orensof, barou, amelubash bo veno davar vitnatspo keniskarleel. C'est quoi la folie de la kedusha? La folie de la kedusha, c'est de s'annuler entièrement à Dieu, même quand c'est illogique, de faire quelque chose qui dépasse mon être, mais en bien. Je m'annule complètement à Kadosh Barou. Ça, c'est la folie dans la kedusha. Et tu dis ici, velachen nikra koachma. Ça, c'est la chorma. C'est quoi la chorma? Chorma, ça vient de la même origine que koar, ma. Koar, ça veut dire la force. Ma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la force de se remettre en question et la force de tout enlever, de toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. De tout remettre en question son être. De s'approcher encore et encore et encore et encore d'Akadosh Baruch Hu. C'est un moment dans la vie où on doit atteindre une certaine stabilité. Le bonhomme est tout le temps là en train de se remettre en question. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Ça, c'est la folie de la Kedusha. Il te dit, Vehu efer mamash puprinata klipa visitrahara. Cette folie-là, c'est exactement, c'est en opposition directe, c'est pile le contraire des forces du mal. Je suis au milieu de la page 248. Shimimena nafshota ulam, nafshotumata ulam, diavdin legar mayu. Quel est, si on pouvait définir en un mot, monsieur Benida, voilà, c'est pour vous cette question. Si on pouvait définir en un mot, quelle est la différence entre le bien et le mal? En un mot. Il faut une définition, pas 15 définitions.
Quelle différence entre les deux?
Oui. Qu'est-ce qui fait que le bien est bien, que le mal est mal?
C'est le résultat. C'est le sens.
Le bien est bien, c'est en fonction de comment on a été éduqué, comment on nous a, qu'est-ce qu'on nous a dit comme étant bien et qu'est-ce qu'on nous a dit comme étant mal.
Et si on vous a éduqué, on vous dit qu'il faut tuer des juifs. C'est une bonne, et que pour vous, ça c'est le bien.
Je suis arabe.
Ça s'appelle
du bien, ça?
Non, mais. Si j'ai été élevé comme ça, je connais que cela.
D'accord.
Pour moi, c'est naturel.
Donc, d'après vous, il n'y a pas de bien absolu? Alors, c'est ça la question que je pose.
Non. Tout est relatif.
D'accord. Ça veut dire. C'est quoi le bien?
La vérité.
Ah. Donc, c'est quoi le bien? Qu'est-ce qui définit ce qui est le bien?
C'est la volonté de Dieu.
C'est la volonté de Dieu. Ça veut dire comme ça. La définition du bien en un mot, c'est quoi? Le bien, c'est ce qui est annulé à Dieu, à la volonté de Dieu. Ça, c'est le bien. Dans le bien, plus tu avances, plus tu t'annules à Kadosh Baruch Hu. Regardez la différence entre nous, de simples juifs, et les tzadikim. Est-ce qu'un tzadik, il est orgueilleux? Est-ce qu'un tzadik, il est là à se la raconter, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais pas? Pas du tout. Au contraire. Plus tu deviens tzadik, et plus tu le sens pas. plus, il est annulé complètement à Kadosh Baruch. Ça, c'est dans le monde de la Kedusha, dans le monde du bien. C'est exactement le contraire, d'accord, du mal. Dans le mal, plus tu es grand, plus tu avances dans le mal, et plus c'est moi, moi, moi. Vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit que dans les forces du mal, tout ce que tu le fais pour toi. Have, have. Have, have, en araméen, ça veut dire donne-moi, donne-moi. On dit que la Gemara a dit qu'il y a une sangsue, et la sangsue, d'accord, normalement, tous les animaux normaux, ils ont une entrée et une sortie. Ça veut dire qu'ils mangent et il y a une sortie, d'accord? Mais il y a des animaux qui n'ont pas de sortie. Ils ont que, comme le moustique par exemple, mais comme aussi la halouka, donc c'est la sangsue, d'accord, qui a deux entrées. Ça veut dire qu'elle peut que manger. Maintenant, quand elle va prendre le sang de quelqu'un, elle va gonfler. Ouais. Et elle va gonfler, à force de gonfler, puisqu'elle ne peut pas le sortir, elle va mourir. Donc elle fait une folie, parce que, et quand même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là à te pomper. C'est un suicide. Ça, c'est ce qu'on appelle exactement le contraire de la kedusha, mais dans le mal. Ça veut dire, c'est le suicide dans le mal. C'est pas pour dire je me suicide pour Dieu, Chas v'Shalom. Pour dire je donne tout pour Akadosh Baruch Hu, je vais m'annuler Akadosh Baruch Hu. C'est pile le contraire. C'est je veux moi, quitte même à ce que ce moi va me tuer. Quitte même à ce qu'à force de prendre, je suis pas en mesure de gérer ça. Et que ça va me tuer. C'est ça, c'est un. Autodestruction. Et ben ça, c'est la différence, en un mot, entre les forces du bien et les forces du mal. Dans les forces du bien, plus on avance, qu'est-ce que c'est une star dans la Torah? Une star dans la Torah, c'est une personne qui a appris à s'annuler Akadosh Baruch Hu. À ne pas être orgueilleux. Qu'est-ce que c'est une star dans ce monde-ci? Une star dans ce monde-ci, vous savez ce que c'est? Une star dans ce monde-ci chez les goyim, c'est une personne qu'on parle de lui partout. Et qu'à 29 ans, d'accord, il va se droguer, il va prendre n'importe quoi, il va faire tous les plaisirs, et quand il n'y a plus de plaisir, il va sauter du toit, il va mourir. C'est ça, je vous promets, c'est ça. C'est ça. Tous les quelques jours, t'entends, overdose, il est mort.
Ah oui,
j'ai pris les deux extrêmes, évidemment.
Pas seulement.
Pourquoi? Comment on explique ça? Que même sans aller mourir, les gens qui ils savent plus quoi faire, ils ont goûté à tout. Et tout, c'est moi, qu'est-ce qu'il peut me faire kiffer? Tu lui as tout donné, il a toutes les femmes qu'il veut, maintenant il a pris les hommes, après les hommes ça lui suffit pas, il a pris les animaux, après il a pris... C'est lui, il sait plus quoi faire, d'accord? C'est un fou, ma boule, d'accord? Après il était noir, il s'est transformé en blanc, après il est revenu marron, après il est venu...
Pas de nom,
le pauvre. Il est pas tranquille, qu'est-ce qu'il y a de mal être noir?
Il n'y a pas de satisfaction.
Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est quoi la définition du mal? C'est moi. Qu'est-ce que moi je veux, et qu'est-ce qui me fait plaisir, et qu'est-ce qui et quand, alors bien sûr le plaisir, il faut toujours être dans la surenchère, parce que ce qui fait plaisir aujourd'hui, demain il ne fait plus plaisir. Et ça, c'est les forces du mal. Les forces du mal, c'est toujours je veux moi.
D'accord. Même en Torah, t'as besoin de tridouche.
Bien sûr.
Quand tu dis que dans le plaisir ne peut pas être assouvi, parce qu'en fait, ce qui te fait plaisir le jour J, le lendemain finalement, c'est devenu. C'est devenu une lassitude, quoi. Donc, mais c'est pareil aussi dans l'apprentissage de la Torah. C'est-à-dire que si tous les ans tu répètes la même drachat...
C'est l'inverse. Même, oui, j'ai compris.
T'as besoin
de chidouche, bien sûr. Mais dans la Torah, c'est la démarche inverse. C'est quoi la démarche inverse? C'est que dans ce monde-ci, la démarche est plus j'avance et plus je veux moi, je veux m'enfoncer. Dans la Torah, c'est le contraire. Je vais rechercher aussi du plaisir. Mais mon plaisir va être quand je vais comprendre encore plus la complexité de la Torah. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire, j'étudie une page, je vais la retudier demain, et je vais me dire, j'avais pas vu à quel point c'était profond. J'avais pas vu ce détail-là. Ça veut dire que tu as vu à quel point, tu as admis qu'il te manquait quelque chose, et tu as cherché quelque chose de nouveau. Et le lendemain, tu vas dire, j'avais pas vu qu'il y avait ça aussi, ce détail-là aussi. Tous les jours, tu avances, et plus tu t'écrases. Et plus tu dis, mais j'avais pas compris. Mais ça, t'as pas ça dans les forces du mal. Dans les forces du mal, plus ça avance, plus tu dis, j'avais pas eu encore ce kiff. Pas, j'avais pas encore compris. Pas, il me manquait ça. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Dans le monde de la Torah, plus tu avances, plus tu donnes un Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, c'est très simple. On a inversé un plaisir par un autre. C'est tout.
Non, mais dans un cas, tu as des choses qui sont limitées, que tu atteins, puis après tu vas vers quelque chose encore de limité, de l'autre côté c'est illimité.
Ah, pas d'accord.
C'est ça la différence. C'est très simple.
Parce que chaque...
Le mal n'est pas illimité aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est très simple. En fait, la clé de la réponse, c'est... Parce que toi, tu parles de ce qui est central.
Donc, tu parles... C'est symétrique.
Voilà.
Eh oui.
Quand tu es au centre, effectivement, tu as raison. Il y a des étapes. Tu avances, d'accord. Une fois que tu arrives là, tu attends un peu, après tu avances. Ça, c'est quand tu es au centre. Mais quand tu descends vers le mal, t'as rien qui t'arrête. C'est la mort qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui l'arrête. Et pareil dans la Kedusha aussi. Dans l'autre sens aussi, il n'y a rien qui l'arrêtera. C'est la mort qui l'arrêtera. Et avec ça, il n'y a pas de mort, parce que la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Donc c'est exactement la même démarche, mais dans l'autre sens.
Et même dit, oui. On peut voir que c'est la mort qui l'arrête. Parce que même les plus grands rechaïm, où par exemple, il y a des gens qui les ont adulés, comme tu as fait l'hectare, etc.
C'est contingenté.
Une fois qu'il meurt, les seules choses qu'on va essayer de rappeler de lui, c'est que même s'il avait été riche, mauvais, etc., on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on se rappelle d'un mort? On va dire, il est généreux. C'est ça que les gens reconnaissent comme du vrai bien. Une fois que la personne est morte, ils vont dire, il était généreux, il était comme ça, il s'occupait des gens, etc.
Parce qu'il ne sait même plus quoi faire pour kiffer après.
Avant, il adorait même pour ses bêtises.
Bien sûr.
Il retient que ça.
Oui, c'est-à-dire parce qu'on retient que le Hémet, en vérité. C'est comme ça. On retient que le Hémet. Mais bon, on voit quand même dans les forces du mal comme ça. Moi, j'ai jamais vu des choses comme ça. Mais on me raconte, par exemple, il y avait des concerts comme ça des gens qui sont capables de prendre des dizaines de milliers de personnes. Et il y a une effervescence. Ça vient pas de nulle part. C'est pas juste la batterie qui fait ça. Il y a une effervescence. Il y a une puissance. Tu peux pas dire qu'il y a rien.
Alors, ça vient d'où, ça? Eh ben, ça vient. Il y a un doute quand même à ce moment-là.
C'est pas une, voilà, justement. Ramener, mais sûr qu'il y a un doute.
Quand
t'as 25 000 personnes qui sont là, et qui sont là à sauter, ils tiennent pas en place, c'est pas que la musique qui fait ça.
Il y a pas que la musique, d'accord.
Il y a une puissance. Pourquoi vous croyez que dans la Torah, je vais ouvrir une parenthèse, d'accord? Après, vous la prenez comme vous la prenez, mais pourquoi vous croyez que dans la Torah, on fait tellement attention à ne pas écouter de la musique goy? Pourquoi on fait tellement attention à ne pas écouter de la musique goy? Parce que, tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai écouté une musique avec des paroles sympathiques, etc. Tu vois, en plus, il n'y a pas de paroles, bon, c'est quoi le problème? Parce que dans une musique, il y a une puissance. Il s'est exprimé, celui qui a composé cette musique. Il s'est exprimé dedans. Il a mis ses tripes dedans.
Est-ce que Jean-Jacques même si moi, la musique goy?
Bien sûr.
La musique goy, ça peut aussi aider à se sentir un cadeau de bonbon.
Est-ce que ça arrivera de la musique goy?
Alors, justement, c'est ça la différence. Regarde. La différence, c'est comme ça. C'est est-ce que, non, mais attendez. Et ça, vous pouvez faire le test. Regardez la différence qu'il y a entre quand vous écoutez une musique goy et quand vous écoutez une musique juive. Quand j'écoute une musique juive, une vraie musique juive, pas des reprises, des trucs bidons, là, comme ça, une vraie musique juive. D'accord?
Sois plus précis, s'il te plaît, parce que...
Non, pas des trucs comme HMLR, ça, c'est pas une musique juive. Alors, bon, excusez-moi. Non, les mots sont juifs, mais bon, en tout cas, on va casseriser ça aussi, ça va, on vous les laisse, d'accord? On vous les laisse. Regardez la différence, il y a une différence très simple. Quand vous écoutez une musique juive, authentique, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez que vous avez envie de vous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Vous sentez que vous avez une vraie joie qui vous pousse, d'accord? Vous avez envie de... Même une musique joyeuse. Vous sentez que vous avez envie de danser. Même un piyout, d'accord? Un piyout, même... Peu importe, je parle pas de musique spécialement ashkénaze. Musique ashkénaze, c'est farad. Quand c'est une musique juive, ça te donne envie de t'approcher, de louer à Kadosh Baruch Hu. Quand tu écoutes une musique goy, qu'est-ce que ça donne envie? Ça donne envie de te lâcher. T'as envie de tout lâcher, t'as envie de tout casser. Quand tu écoutes une musique goy, même une musique qui est une musique lente, une musique douce, ça te déprime, ça t'angoisse. Ça te donne pas la simcha intérieure.
Mais parce que chaque musique a son lien.
Bah, moi, je te dis, il y a une différence.
Ouais, mais d'accord.
Par exemple, le fado.
La différence, c'est très simple. Non, la différence, chaque musique a sa force. Exactement. La force d'une musique juive, c'est qu'elle va t'amener il y a des musiques qui t'amènent la simcha, et des musiques qui t'amènent la teshuva. Pas la déprime, la teshuva. D'accord? Mais quand tu vois les gens qui écoutent, là, le rock, le hip, le pop, le truc, ça, c'est bêtise, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? D'accord, ça, c'est encore autre chose.
Mais il n'y a pas que ça, quand même, dans... Il y a la musique classique aussi.
Oui, voilà.
Bon, voilà.
Vous savez qui c'est qui composait la musique classique? Vous savez qui est Beethoven qui était dans la vie? Hein, vous savez qui était Beethoven dans la vie de tous les jours?
Non.
Vous voulez que je vous raconte?
Oui.
Je suis enregistré. Là. Vous chercherez sur Internet après.
Il n'y a pas que lui, hein.
Mozart, vous voulez chercher aussi ce qu'il faisait Mozart?
Non, Mozart, c'est un dépravé, ça, on le sait.
Cherchez sur Wikipédia, vous allez voir.
De cette folie-là, il a composé des choses géniales.
C'est une folie.
Enfin, dans l'esprit.
Et que même si c'est génial, mais personne dirait que c'est pas génial. C'est génial, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils expriment dedans, c'est soit une mélancolie, soit une envie de se lâcher, soit une envie d'avoir du plaisir pour moi. Pour moi.
Ouais, mais enfin, quand on les écoute,
même l'opéra,
on les partage.
Alors que maintenant, il y a des gens bien chez les goyim, j'ai pas dit le contraire, il y a des gens bien chez les goyim. Mais quand tu écoutes une musique juive, ce qu'il y a de particulier dedans, c'est que cette musique, elle te donne l'envie de t'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Elle te donne l'envie d'être besimcha, elle te donne l'envie de faire teshuva, c'est une musique lente.
Ça dépend du type de musique et ça dépend où c'est qu'on a évolué.
Moi, j'ai jamais écouté une musique juive qui m'a déprimé.
Bon.
J'ai jamais écouté une musique juive, d'accord, qui m'a donné envie de tout casser, de tout lâcher. Ça n'existe pas.
Une musique ashkénaze, moi, ça fait pas vibrer, hein.
Très bien, pas de problème. Mais ça vous peut pas voter en tout cas.
C'est une question de culture
musicale. Oui, voilà. Et pourtant, moi, tu me mets devant la musique arabe, je vibre.
Oui, bien sûr.
Voilà. Tu me mets le judéo arabe, je vibre. Mais tu me mets un truc ashkenaz.
Vous écoutez Oum Kulthoum, ça vous fait quoi?
Non, pas du tout. Non, même pas. Non, mais les auteurs, compositeurs, judéo arabe, moi, je vibre avec ça.
Évidemment, c'est très bien.
Voilà.
Parce que c'est très bien. Ça, c'est bien. Parce qu'une personne comme ça, mais j'ai pas parlé de musique ashkenaz. Je veux pas la fille de musique rabat. Ça dépend de quoi on a grandi. Mais c'est bon, après, chacun il choisit ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez même, moi, j'ai pas spécialement le, bon, j'ai pas grandi dedans, mais vous prenez même un piou ou des choses comme ça, on sent une kedoucha dedans. Quand on entend un piou, on sent une kedoucha, on sent que ça te donne envie de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ça te donne envie d'écouter, de chercher quelque chose.
Oui, parce que on a baigné là-dedans.
Oui.
Parce que nous avons des racines là-dedans.
Quand vous écoutez un piyout comme ça,
sans les mots,
vous savez ce qu'on dit en chassidout ? On dit que les musiques les plus fortes sont les musiques sans mots. Parce que les mots, ça réduit la force de musique. La force d'une musique, c'est quand il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Parce que les mots, tu te concentres sur les mots et du coup, ça tu ne fais pas attention à la mélodie. Quand tu n'as pas de mots, la mélodie, c'est la puissance de la Neshama. Admour Hazaken, l'auteur de ce livre, il disait que le nigoun, la chanson, c'est la plume du cœur.
Oui. Ça va. Mais la chanson, elle est dite dans une circonstance, et ta mémoire, quand elle te la restitue, elle te restitue la musicalité de la circonstance. Quand tu me parles sans les mots, c'est normal sans les mots, parce qu'en réalité, quand tu entends la musique, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est le son, la tonalité, mais aussi la circonstance qui est associée
alors,
à ça.
Faites un test.
Donc par exemple, tu te rappelles, chez nous, on a une tonalité particulière pour la Neila. Aujourd'hui, tu fredonnes le son de la Neila. Tu es à Kippour.
C'est pas seulement ça. C'est pas seulement une association par rapport à une situation. D'accord? C'est-à-dire associé par rapport à différentes choses. C'est beaucoup plus que ça. Fais un test ce soir quand tu rentres chez toi. Mets dans ton iPad, un truc comme ça, une musique que tu aimes beaucoup. Une musique que tu aimes beaucoup. D'accord? Je sais pas. Prends une musique que tu aimes beaucoup. Écoute-la. Une fois, deux fois, trois fois. Et essaye de réfléchir. Qu'est-ce que la musique t'inspire? Essaye de sentir qu'est-ce que la musique te fait. On se rend pas compte, parce que quand on écoute la musique, en général, c'est pour se détendre. Donc on se rend pas compte. Essaye de réfléchir qu'est-ce que ça fait. Tu verras, tu vas voir la différence. Fais un test, tu verras, ça marche à tous les coups. Mais oublie mon cours. Fais un test ce soir, on en reparle Shabbat. Marché conclu ?
Ça va donner envie de tout casser, le mec. Mais attention, qu'est-ce qu'il écoute ?
Ça parle, là, c'est
ta manioc. C'est ça. La force de la Torah, c'est de t'apprendre à aimer ce que tu as, à chercher encore plus, encore plus dans le spirituel. Pas avoir encore moins, comment j'ai pour moi. Parce qu'il dit aussi, voilà, quand t'es pour moi, le bonhomme, après, il voit sa femme, il est pas content.
Non, d'accord, ok, mais on parlait simplement de... Ça, on a compris. On parlait simplement de l'histoire de la musique.
Il y a une voix magnifique.
Ouais. Alors, donc pour résumer, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On a expliqué en deux mots, on n'a pas avancé beaucoup sur le texte, mais bon, pour résumer, on a expliqué la folie dans le bien, la folie dans le mal. Oui. Mais la folie dans le bien, la vraie folie. Mm-hmm. Pourquoi ? On a raconté plusieurs histoires, l'histoire du Baal Shem Tov, l'histoire de Rabbi Yehuda Bar Ilai, enfin avec Rabbi Zera, l'histoire qu'on a raconté celui qui jonglait. On a raconté aussi l'histoire de l'Admor HaZaken qui se roulait par terre, etc. On a dit que tout ça, et surtout le testament, le fameux testament, enfin ce qu'on considère comme être un testament, mm-hmm. du Rabbi précédent. Qui a prévu ce qui se passe dans notre génération.
À notre niveau,
c'est quoi la folie du top? La folie du top, ça veut dire faire quelque chose.
D'accord?
La folie du top, ça veut dire faire quelque chose. Quand tu sens que ton Yitzhara te pousse à faire quelque chose qui est en dessous de la logique, fais quelque chose qui est au-dessus de la logique, qui n'est pas de ton standing, qui n'est pas de ton style, qui n'est pas de ton niveau, qui dépasse toi ton habitude.
D'accord, en fait, ça rejoint à peu près le cours d'il y a un chapitre ou il y a deux chapitres qu'on te dit de changer ta normalité.
Oui, mais là, c'est plus que ça. Là, on parle de folie, carrément. Faire une folie.
Ben, c'est à peu près la même chose, puisqu'on te dit qu'en réalité, si tu es un Benoni comme ça ou un Benoni comme ci, tu vas te...
Oui, j'ai compris, mais là, c'est nouveau, là. Là, ce qu'on a employé, c'est le terme de la folie.
D'accord.
Jusqu'à présent, dans la tête de tout le monde, les fous, c'était ceux qui font de la Averot, les gens de l'Armos, ceux qui font des mitzvot. Et là, il t'apprend, il te dit non, il y a des fous qui font des mitzvot aussi. Il y a des ravins fous aussi. Et c'est les meilleurs, ceux-là.
Oui, c'est des raves, des ravagés.
Les raves ravagés.
Des ravagés.
Alors,
des raves allemands, alors bon.
Voilà. Alors, faire une folie, exactement. Donc, dans les mots, liot yesh vedavar bifnei atzmo kanizkar liel efar b'chinat ha'chokhma velachen nikraim metim ki ha'chokhma techaye uktiv yamutu velo b'chokhma. Je m'arrête ici. Donc, parce que sinon, après, il y a beaucoup de choses. Il dit, voilà pourquoi on voit que les rechaïm dans la Gemara, ils sont appelés des morts. Parce que c'est quoi la différence entre la vie et la mort? La mort, c'est le fait de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. La vie, c'est le fait de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu.
Ben non, la...
Attendez, j'ai pas fini. Laissez-moi arriver.
C'est
ça
boucle.
Justement, on croit que c'est le contraire. Mais regardez, quand une personne part de ce monde, quand on va dans un cimetière, on dit qu'on va dans le Bet Achayim, dans la maison des vivants.
Oui.
D'accord. Et le rachat de son vivant, tu l'appelles mort. Parce que c'est écrit Lo hametim yehalleluya. Les morts ne peuvent pas louer Dieu, dit la Gemara. Mais évidemment que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Qu'est-ce que dit la Gemara? Et on parle des rechaim. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. La vie, c'est la Torah. La vie, c'est le bien. Quand tu as un tzaddik, d'accord, plus il avance, plus il veut monter vers Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, il part de ce monde, il monte vers Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous, on est comme ça. Ça veut pas dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il a retrouvé la vraie vie. Parce que la vraie vie se trouve en haut. Donc comme la flamme, rappelez-vous, comme la flamme qui fait Messirut Nefesh, cette fameuse flamme, elle veut quitter la bougie, la mèche dans laquelle elle se trouve, quitte même à disparaître. Ça la dérange pas qu'elle va disparaître. Qu'est-ce qu'elle veut, cette flamme? Elle veut retrouver sa source. Elle est prête à faire Messirut Nefesh pour ça. Elle veut retrouver sa source. Elle en a rien à faire. Elle fait une folie. Elle veut partir. Ça, c'est la vraie vie. Par contre, quand tu prends un rachat, qu'est-ce qu'il fait le rachat? Le rachat, il se tue. Il tue sa vie. Il essaie d'avoir du plaisir, mais il se tue intérieurement. C'est pour ça que le rachat de son vivant, il est appelé mort. Donc, le tzaddik est vivant, le rachat est mort. Maintenant, ça, c'est la question. La question qu'on se posera à Bezrat Hashem la semaine prochaine.
Mais ils vont tous au même endroit.
Dans notre vie, et c'est ça la complexité, C'est qu'un juif, dans sa vie, c'est ça la complexité, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment ce qu'on vit tous les jours, ça. Le problème qu'il y a dans notre vie, c'est que dans notre vie de tous les jours, autant on peut être des fois un grand rachat, autant on peut être un grand sadique, dans le sens. Autant des fois tu as des juifs qui, quand ils passent par des moments très difficiles, des moments dans lesquels il y a une épreuve sur le judaïsme, etc., on le dit, rentre dans une église, convertis-toi, ou qu'il y a comme ce qui s'est passé actuellement en France, tu retrouves le juif et c'est énorme, l'unité qu'il a c'est énorme. C'est-à-dire que le juif il devient sadique. Et autant ce même juif, quand il est dans la vie de tous les jours, il peut être comme un rachat, mais rachat de chez rachat. Et ça c'est compliqué, parce que dans le cours que je viens d'expliquer maintenant, on a fait ça deux personnes différentes. Il y avait le grand tzaddik, le grand rachat. Mais là, le problème, c'est qu'en vérité, chez nous, c'est en moi-même, je suis à certains moments le grand tzaddik, c'est-à-dire je veux que Dieu, et à d'autres moments, je suis le grand rachat. Comment gérer ça? C'est la
schizophrénie.
D'accord. Exactement, c'est la schizophrénie. On est vraiment schizophrène, mais ça, on le voit, ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux faire des avérotes énormes que personne ne peut détecter que tu aurais pu faire, et à d'autres moments, tu peux faire des mitzvot énormes que toi-même, tu te dis, mais comment je peux faire une mitzvot comme ça? Puis il dit, mais attends, mais je comprends pas. C'est-à-dire que je suis de sadique ou rachat? Qu'est-ce que je fais là? C'est qui moi? C'est qui? Qu'est-ce que je raconte ici? Et c'est ça ce qu'on va expliquer à son prochain. La semaine prochaine, ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, c'est la notion comment la Neshama est en galoute dans le corps. Comment elle est en galoute dans le corps. Et comment sortir de la galoute. Très important. Vous savez, les gens parlent beaucoup de Mashiach. Bien sûr, on attend Mashiach. Mais pour que Mashiach arrive dans le grand monde, il faut d'abord qu'on amène Mashiach chez nous. C'est quoi amener Mashiach dans notre corps? C'est aider notre Neshama à sortir de l'exil dans lequel elle se trouve. Aider notre Neshama à arrêter d'être dans l'exil du rachat qui l'a fait tomber. Et aider la Neshama à refaire sortir le tzaddik qu'elle a en elle. Mais ça, il nous faut des techniques. Ça, mais Bezrat Hashem, tout ça, on est là pour la semaine prochaine.
Est-ce qu'on sait si, plus tard,
merci,
à la fin de la fin, même après Mashiach et tout, on sait si tout le monde sera au même niveau?
Non, pas du tout. On ne sera pas au même niveau. Le rabbi dit que, on voit dans les mots du Rambam, il dit que lorsque Mashiach viendra, la sagesse emplira le monde comme les eaux recouvrent les océans. Pourquoi il a comparé aux eaux qui recouvrent les océans? Parce qu'on voit que quand tu vas à la mer, tu vois assez plat. T'as l'impression que tout est au même niveau. Mais quand tu fais la plongée sous-marine, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'en vérité, à la surface, tu croyais que c'était tout au même niveau, mais en vérité, le relief, il est complètement différent. Ça veut dire que d'un kilomètre à l'autre, ça peut être des extrêmes. C'est la même chose. Ça veut dire que quand Mashiach viendra, à la surface, on sera tous les mêmes, tous croyants, tous religieux, tous bien, etc. Mais quand après on va rentrer à l'intérieur, il y aura des différences. Il y aura des gens qui auront un relief plus profond que d'autres, mais c'est pas un problème, ça. Tant qu'on va au maximum de notre personne, c'est bon. Tant qu'on se recherche, c'est bon. Voilà.
Maximum de la montagne.
Maximum de?
De la montagne.
C'est quoi ça?
C'est Gad.
Ah d'accord. Bon.
La référence. J'ai parlé des Marocains, il y a ça y est. Il n'a pas assez servi.
Allez.